N'essaie pas de me flatter, Thomas, là. Je vous explique, on a dans les oreilles, on a la drum and bass, mais dans le retour antenne, on a du classique qui est diffusé par Radio Radio avec un jingle qui a été fait en anglais, vaguement, avec un putain d'accent toulousain, impitoyable. Ah ouais, mais eux, ils passent vraiment l'easy listening. Bah, à mon avis, ça doit être une réponse à ce que je leur mets d'habitude, je sais pas, doit avoir un truc comme ça. Bon, je veux pas revenir là-dessus, peut-être un manque d'humour, pas tant, mais... Enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Ceci dit, Thomas, bonjour.
Ne regarde pas.
Oh, ouais, on va y aller. Mesdames et messieurs, c'est le commandant de régie qui vous parle. Ding dong, auditeur de Radio FMR, service mondial, merci de nous écouter sur le flux Ogvorbis. Notre programme va être relayé à 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à partir de midi pile, temps commun européen. Les sorties de votre appareil sont marquées sur votre écran, en haut à droite, par une croix ou un bouton rouge. Ça peut aussi marcher avec Alt-Q, Ctrl-Q ou Alt-F4. La température au sol est... Il fait 6-7 degrés hein, quand même, ça va.
Ouais, c'est remonté, oui.
Ouais, c'est remonté, là, tranquille. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel. Vous êtes bien évidemment interprété par Fred Rabold und his Bavaro Orchestra. Dans une minute, je tiens à m'excuser d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent via le podcast et qui nous recevront avec beaucoup de retard. En ce moment, c'est un peu indépendant de ma volonté, donc voilà. Donc pendant un mois, ça va être un peu catastrophique. C'est pour des raisons qui me sont vraiment indépendantes. C'est un peu chaud, quoi. Ça va être comme ça jusqu'au festival d'Angoulême, je suis désolé. Bonjour et bienvenue, nous
Salut.
Sommes le samedi 7 janvier 2006. Bonne année !
Bonne année !
Bonne santé !
Pareillement !
Et écoutez la radio, comme tous les samedis, Radio FMR ouvre avec les magazines Supplément Week-end, BD Cinéma, DVD TV, puis le Cahier du Sport, à peu près à partir de 13h, puis à 15h du mix avec Zarma Faraï, c'est du reggae, 17h Vidor Dur, c'est du punk, 18h on est chez nous, 19h Dada, 20h l'Estétéro Expérience, 21h30 Liquid Sky, passe du barré aux barges. Et à 23h, t'es la jungle avec Bohemian Experience. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Ça va bien?
Ouais.
Ouais, bah tant mieux. Bah super, on va s'éclater à mort. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé une super année 2006. C'est la pire des choses qu'on puisse vous souhaiter. C'est que vraiment vous éclatez à écouter Radio FMR. Hein? Non?
Bon, oui, d'accord. Oui, oui, oui.
FMR, vous n'avez jamais écouté de radio.
Je crois qu'on va arrêter là les petites allusions pas très fines envers nos petits copains, mais bon, quand on est... Qui aime bien, châtie bien. Hein? Non, pardon. Allez, aujourd'hui, supplément week-end, première de l'année avec, ma foi, un truc qui va cartonner puisqu'il y aura, il sera question de nouilles, il sera question de douilles et il sera question de... Pardon, excusez-moi,
non,
ça m'échappe. Non, pas du tout.
Non, pas un peu, mais...
Ah bon ? Non seulement ? Ouais, la semaine prochaine, les... Bon, pardon. Et alors, ça s'appelle quand même un vœu. C'est du sport qui est arrivé pour le début pendant le générique. On l'applaudit. Ouais, bon, on va le laisser un peu déballer tout le reste. Alors 2006, une super bonne année, une super bonne santé. Et toi, est-ce que t'as prévu une bonne résolution?
Oui, gagner plus de pognon, faire plein de nouveaux films et
Des films qui durent plus de 12 secondes, je suppose.
Oui.
Bon, d'accord, c'est bien, ça c'est une bonne résolution. Ouais. Sinon, je ne sais pas,
Oui, continuer à avoir des super films et te taxer des super BD aussi et puis s'éclater à avoir
Si tu pouvais passer un peu plus souvent quand même dans l'émission, ça me ferait plaisir.
Bah écoute,
un peu plus assidu.
Ça faisait pas partie de mes résolutions, mais je pense que je vais faire un petit effort selon les périodes.
D'accord. À côté de cela, bah moi, mes résolutions cette année, ce serait une nouvelle émission qui commencera en cours d'année et qui sera en pré-enregistrée, mais ça, on en reparlera, et qui sera accessible surtout en différé sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net, où d'ailleurs, vous avez la rubrique Supplément Week-end. Vous tombez dans le site de Supplément Week-end et là, vous pouvez dire ce que vous pensez des émissions, dire ouais, non, j'ai pas aimé telle chronique, tel truc, etc. Et vous allez voir, il y a plein de bonnes choses. Du sport qui est en train de faire une descente en rappel derrière nous. Ben oui, c'est sportif hein, quand même de faire la radio, il n'y a pas à dire. Si tu peux rejoindre ta place pour les expliquer. Non, bon, d'accord, ok, on va la faire. On va la faire manière
à la, Michel Drucker.
Voilà, formidable. Alors, j'ai un animateur qui est absolument formidable, qui fait quand même de la radio depuis presque 20 ans. Quelqu'un que j'admire énormément. Alors, du sport, quels seront vos vœux pour 2006?
Plus de 20 ans.
Oui, bah alors. C'est là où on sent un petit peu ridicule, vous voyez. Quelle est ta résolution pour cette année?
Aucune.
Aïe.
Oh bah c'est bien.
Oh, c'est bien.
Moi, ça prend une année que je fais des résolutions, donc voilà.
Ouais, haute définition aussi.
Ouais.
Ouais, on va essayer cette année. Bon. private joke, bien évidemment, et ça, vous aurez.
On avait dit qu'on n'en ferait pas, et on commence l'année par une private joke, c'est. Voilà, on tient nos promesses, on tient nos résolutions, ça s'annonce très bien pour 2006.
Eh oui, c'est magnifique! Enfin bon, on a un petit programme qui, ma foi, on a vraiment un coup de cœur monstrueux cinéma à l'heure, oui. Hein, vraiment, 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 on y est allé, c'est un hasard, c'était un pari. Et je dois remercier ta copine Sabrina, non pas pour soi-disant des bagatelles, etc. Je tiens à couper court à toute rumeur de suite, mais elle m'a beaucoup aidé là pendant ces 15 derniers jours. Et donc, le paiement, c'était une soirée resto et ensuite aller au cinéma. On en parlera justement du film en question qu'on est allé voir parce que c'est vraiment le carton.
Et puis, si vous,
c'est aussi... à mon avis, il faut vraiment faire l'acte citoyen d'aller le voir.
D'accord.
Vraiment.
Et puis, si vous aussi, vous souhaitez vous faire payer vos places de cinéma par Xavier, vous pouvez appeler au numéro de téléphone de la radio 0561 580 580.
Non, non, non. Là, budgétairement, là, je suis naze. On entame la revue de presse.
Ouais, avec des petits magazines pour démarrer l'année, là. Bon, on en aura un aujourd'hui. Il s'agit du nouveau numéro de première, toujours à 2€. Il s'agit du numéro 347. C'est celui de janvier, avec en couverture exclusive Besson dit tout sur Angela.
C'est-à-dire, il dit quoi? Il dit s'il paie, combien il paie d'impôts ou combien il touche du CDC?
Bon alors, c'est vrai qu'il a la coupe de cheveux un peu à la Florent Pagny, mais non. Il dit tout sur le cinéma en général, sur l'état de la France. Tu sais, il a fait beaucoup de films adressant aux jeunes de banlieue, donc on lui a demandé son avis sur son enfance et tout. C'est la première fois qu'il se livre un petit peu. Donc voilà, Luc Besson dit tout sur Angela, sur Jamel, la banlieue, d'abord sur lui-même.
Alors, je tiens à faire une petite confidence, c'est que Thomas, hier, m'a appelé, malheureusement, exactement à 20h. Or, à cette heure-là, sur Canal, nos petits copains des guignols de l'info ont fait un gag monstrueux que Thomas a loupé sur Luc Besson, et c'est bien dommage. Et c'était assez hilarant. C'est bien, c'était après Le Transporteur, après Taxi, après... Banlieue 13. C'était Voici le scénariste. Et là, t'as Luc Besson devant son Mac qui fait... Alors, un livreur de pizza avec une moto customisée, ouais, et qui tue en série, ouais, youpi, brrr. Et on le voit taper au clavier en faisant... Ça fait plaisir pour le cinéma français, il n'y a pas à dire. Enfin bon, rassure-moi, il n'y a pas que ça qui motive
non,
à acheter
première. Non,
première.
Qui motive pour acheter première, il y a aussi un collector King Size sur King Kong avec...
King Size King Kong.
Ouais. Ouais, Peter Jackson, l'énorme interview, Naomi Watts hors norme, le travail colossal d'Andy Serkis, enfin que des jeux de mots sur le côté énorme du film. Et donc il s'agit d'un supplément avec le poster du film original. Et on a également le retour du film politique aux USA, en France et en Italie, avec un reportage sur les agitateurs, les clones de Michael Moore en ce moment, c'est-à-dire les gens qui ont quelque chose à dire sur Berlusconi en Italie, mais aussi en France, avec le retour l'arrivée de certains films qui parlent de la guerre d'Algérie et sur l'état des films, du film de banlieue.
Ouais, mais attends, tu m'excuses, mais la guerre d'Algérie, c'est quand même une histoire qui est un peu passée. C'est pas, enfin, c'est une histoire qui nous est proche. Mais Michael Moore, lui, il parle surtout de l'immédiateté et de, oui, et de l'état des gens. D'une manière un peu bâclée, à mon sens. Mais bon, il n'en est pas loin.
Oui, mais je disais pas que tout était des clones de Michael Moore, mais justement, il profitait du succès énorme qu'avait eu Fahrenheit 9-11 pour s'engouffrer dans cette brèche-là. Et aussi, on a aussi un top 15 des films préférés de l'année de la rédaction. Et alors...
Classement.
Alors, il y a un top 15.
Et ben, on part à partir du top 5.
Et voilà, top 5.
Top numéro 5.
Charlie et la chocolaterie arrive en cinquième position. Dernier film de Tim Burton. Enfin, pour moi, j'étais un peu déçu, mais bon. Voilà, apparemment, ils l'ont bien apprécié. Il s'agit on le rappelle, de la rédaction. Donc, c'est quand même des films, pour l'ensemble, assez confidentiels ou très peu grand public. Mais
c'est pas Télérama. Hein.
Non, voilà. Suivant.
Top numéro 4.
Dernier Spielberg. C'est pas Munich. La guerre des mondes. Ils l'ont mis en numéro 4. Avec Dakota Fanning et Tom Cruise. Suivant.
Numéro 3.
Le dernier Scorsese, avec DiCaprio, c'est Aviator. Ils l'ont bien apprécié dans l'ensemble.
Numéro 2.
Alors, c'est un film qu'on a chroniqué ici et qu'on est allé voir tous les deux, Xavier. C'est History of Violence de David Cronenberg.
Grandiose.
Qui arrive dauphin du film numéro 1.
Numéro 1.
Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Ils ont été sensibles au côté larmoyant du film. Moi, c'est un peu un truc qui m'a rebuté, mais c'est vrai que la première partie, avec tout ce qui se passe sur les rings, c'est vraiment... tu te prends une gauche directe dans le menton.
Un bon crochet.
Voilà.
Youpi ! On entame directement avec la bande dessinée, parce que, ma foi, on va avoir vraiment, vraiment un programme très chargé. 12h13 sur Apple Poubelle Radio. Radio FMR, vous écoutez Supplément Week-end. Avec un bouquin qui n'est pas édité en soi par un éditeur, mais plutôt par un festival de bande dessinée, puisque le festival de la BD d'Amiens a donc fait une proposition, ma foi assez indécente, je veux dire, à des dessinateurs. Ils ont pris un scénariste, Fabien Vellman, et ils lui ont dit, ben, c'est très simple, tu vas faire un scénario d'une planche qui va être illustré par une douzaine de dessinateurs. Et ben donc Fabien Vellman et un collectif de dessinateurs ont produit Coïncidence. C'est édité par On a marché sur la lune, qui est donc
sur la bulle.
On a marché sur la bulle, excuse-moi. qui est donc l'éditeur, excusez-moi, l'association organisatrice du festival de la bande dessinée d'Amiens, qui est un festival qui est très actif. Oh, imaginez qu'à midi pile, c'est-à-dire il y a exactement 14 minutes et 36 secondes, devant la mairie, donc place du Capitole pour les Toozing, vous êtes debout, une cuillère à café levée, bon, l'air un peu con. Et pourtant, supposons que cela soit le cas pour 12 personnes qui ne se sont pas concertées, une belle coïncidence, sauf qu'ayant lieu simultanément dans 12 villes différentes, elle passera inaperçue. C'est le scénario qu'a concocté Fabien Vellman pour le festival BD d'Amiens, qui a soumis à une douzaine de dessinateurs. Évidemment, l'exercice de style est très répétitif, mais c'est comme chacun va adapter sa sauce, ce script qui est très précis. C'est là où ça devient intéressant. Des stars comme Lewis Trondheim, d'habitude au nonsense comme Goossens, du dessin grogné comme Batem, voire même ils ont pris un Norvégien, un Japonais ou un Mexicain. Tous ceux qui sont fans de ce genre d'exercice, eh ben, ils seront comblés. Avec une double page d'interview de chaque intervenant, c'est une sorte de making-of sur la BD avant la BD. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage, justement, que l'interview parle exclusivement, justement, de l'exercice en lui-même. Ça aurait pu être intéressant de parler de son style, de comment il aurait aimé l'adapter ou quel type de scénario il a l'habitude de faire. Mais bon, après tout, c'est... plutôt intéressant en tout cas, Coïncidence de Fabien Vellman et un collectif dessinateur, c'est aux éditions On a marché sur la bulle, et si vous voulez le demander à votre libraire, c'est distribué au comptoir des indépendants, si je ne me trompe pas.
Allez, taxé.
Et... Ça va, merci. Bande dessinée suivante. Oh, une collaboration franco-japonaise. Il s'agit bien évidemment de Icar et de... Avec quoi, Thomas ?
Non, mais moi je l'ai pas lu et puis on me l'a offert à Noël, donc s'il te plaît, ne me le spoil pas.
Bon, d'accord, ok. Ben, on va rester dans la même collection, c'est-à-dire la collection Made in chez Kana, qui est donc la section manga chez Dargo. D'après un roman d'un écrivain sud-coréen qui s'appelle Han Do-yoon, c'est adapté par Chin Kyu-sok et Byun-ki-yung.
Bravo.
Nui Cha-jang. Je vais y arriver. Nui Cha-jang. C'est dans la collection Made in Kana chez Dargo. C'est sous-titré Souvenir de mes 17-18 ans. C'est les chroniques d'un jeune qui a fui sa famille, son père instituteur, très conformiste, et de sa mère soumise, histoire de devenir un peu responsable de lui-même, devenir un peu adulte. Son arrivée dans une ville qu'il ne connaît pas, où il trouve un job de livreur dans un petit restaurant chinois. Et de là, c'est toute la vie de quartier d'une ville moyenne en Corée du Sud qui vous saute à la figure. Des rivalités entre commerces voisins, des secrets de famille, de la difficulté de la jeunesse à s'émanciper. Si j'ai dit au début qu'il s'agit de l'adaptation d'un roman, le détail n'est pas anodin. On comprend vite qu'il manque des paragraphes, des péripéties, des détails. Mais pour le lecteur européen, c'est un dépaysement garanti. Et en même temps, la découverte des préoccupations qui nous sont proches dans le quotidien de jeunes adolescents, un peu fugueurs et en même temps qui cherchent leur premier travail et à devenir autonomes. Graphiquement, les couleurs pastel sont superbes et le rythme de la narration de cette manoir est un bol de fraîcheur. C'est agréable à lire, épicé, ça donne chaud au cœur. Comme un bol de nouilles, Soy Chajan. Et je peux vous donner la recette si vous voulez, mais ce serait un petit peu compliqué.
En tout cas, moi je trouve le graphisme vraiment à tomber et je sais que pour les amateurs de dessins à l'aquarelle qui nous écoutent, ça vaut le détour, je garantis.
C'est vrai que d'abord, la manhwa, bon, c'est très proche graphiquement du manga. Ça a mis beaucoup de temps à s'émanciper en Corée du Sud, puisque je rappelle qu'il y a eu la dictature pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 80, et que donc ils ont eu beaucoup de mal à avoir une véritable liberté d'expression, mais qu'à partir de là, ils sont littéralement décollés. Ils ne voulaient plus que la Corée du Sud soit connue uniquement comme les intervallistes des dessins animés japonais. Et autre avantage aussi pour le lecteur français, c'est que le coréen, bah, ça se lit de gauche à droite et les cases aussi. Donc c'est très agréable, c'est très facile d'approche, c'est plutôt facile à lire et ça vaut vraiment le coup. Donc d'après le roman de Han Do-yoon, adapté par Chi Kyu-sok et Byun Ki-yung, Nui Cha-jan, et ça vaut vraiment le coup.
S'il te plaît, je peux te le prendre.
Ça commence à me courir quand même ce refrain. On avait une antenne de préférence, voilà. Ouais, j'ai une petite difficulté de mixage, mais il faut dire qu'il y a une émission qui est le vendredi soir dont j'aimerais bien
tenir sous tes mains les présentateurs.
Oui, mais à mon avis, je ne serai pas le seul parce qu'ils ont réussi à flinguer un potard, donc c'est pas évident. On va continuer avec Christophe Arleston et au scénario et Didier Tarquin en dessin. Il s'agit bien évidemment de L'Enfeste de Troyes des auteurs, mais c'est comme ils ont abandonné L'Enfeste de Troyes depuis un bail. Il s'agit de la suite L'Enfeste des Étoiles. Le cinquième tome s'appelle La Chevauchée des Bactéries. Non, c'est un mauvais jeu de mots, donc je ne vais pas en revenir. Mais ça, c'est habituel avec Scotch. Il arrête pas sur les mauvais jeux de mots. C'est aux éditions Soleil. Bon, on va vite rappeler l'histoire. L'Enfeust est parti dans les étoiles. Il a rencontré Sweep et ils furent envoyés tous les deux dans le passé. Ils se retrouvaient entichés de quoi ? Une jolie fille et recherchent une certaine batterie afin de tuer un prince qui, etc. Une batterie qui n'existe que sur la planète Patacel, où ils se font capturer et seront ensuite vendus sur le marché aux esclaves alors que Sweep est tombé malade et après, la routine. Péripétie, jeu de mots, baston, retournement de situation au hasard de Scotch, pardon, Christophe Arleston, et comme d'hab, des filles très courtement vêtues, mais bon, il y a un truc qui fait que c'est un album qui n'est pas exactement dans la même pêche que l'Enfeust de Troyes. C'est peut-être justement parce que il manque un troll dans l'affaire, qui fait que l'album manque parfois un peu d'humour, comme les précédents, l'Enfeust de Troyes ou l'Enfeust des Étoiles compris. En tout cas, le final, c'est un final qui est assez... qui fout une baffe, littéralement. Donc je vous le laisserai le découvrir, et puis voilà. Christophe Arleston et Didier Tarquin, l'Enfeust des Étoiles, le tome 5 s'appelle La Chevauchée des Bactéries, c'est chez Soleil, c'est sorti depuis début décembre, et ils étaient en dédicace à la librairie Album mi-décembre dernier, donc voilà. Je salue Christophe fort amicalement parce que c'est quelqu'un avec qui on peut s'éclater, voilà. Et qui connaît FMR, voilà, zou, je l'ai dit. Thomas, je crois que tu avais une BD que tu voulais chroniquer.
En fait, c'est le dernier Astérix. Le ciel lui tombe sur la tête.
Le dernier Astérix. Non, attends, le ciel. Non, ça c'est le bouquin. Tu m'avais dit que tu chroniquais le dessin animé allemand là qui va sortir.
C'est la BD. La BD.
Ah ouais.
Voilà.
SOS Détresse, n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler. Parce que Thomas est pleine déconfiture, là, je ne sais pas ce qui me couve.
C'est nul. C'est complètement un chier.
Oui, mais ça, je l'ai déjà dit. J'ai déjà fait la chronique, je vais pas aller plus loin.
Non, mais toi, t'avais lu que 5 pages. Moi, je l'ai lu en entier.
Oui, mais non, j'ai pas lu 5 pages, je l'ai lu 5 minutes. J'ai tenté de lire. J'en suis arrivé aux 3 quarts.
Oui, c'est pourri. C'est pourri, c'est nul.
Laisse-moi deviner, c'est parce qu'on te l'a offert que tu le chroniques.
Non, c'est parce qu'on me l'a offert que je m'arrête là.
D'accord. Je tiens à faire mes plus plates excuses envers la famille du petit Thomas qui, à mon avis, vient de mettre un sacré bazar. Bon, on vous fait quand même, on va quand même dire honnêtement ce qu'il en est du dernier Astérix, c'est qu'il est parti dans une notion complètement punk, c'est on oublie complètement tout ce qu'a pu faire Goscinny auparavant et on met Astérix dans une bagarre entre deux races extraterrestres qui ressemblent en fait d'un côté les dessins animés à la Frère Fleischer, dessins animés des années 40 et les mangas, les dessins animés japonais. Et à vrai dire, on est d'accord, les derniers Astérix sont vraiment nuls. Mais c'est la première fois depuis des années que je vois dans les librairies un dialogue aussi soutenu. C'est-à-dire qu'il y a une véritable polémique entre des libraires, entre des lecteurs, etc. Est-ce qu'il est vraiment nul ? Est-ce qu'il a vraiment voulu renouveler ? Non, ça c'est notre avis. Il y en a d'autres qui ont dit, au contraire, il a voulu faire littéralement autre chose. Il a voulu sortir ce personnage justement de tout son passé, etc. Il a voulu donner un hommage.
C'est du sport.
Le crash test. Alors je tiens à préciser que le dernier Astérix que j'ai lu, c'était il y a 15 ans et c'est parce qu'il était en alsacien.
C'était quoi Astérix de Gaulois que t'avais lu?
Je me rappelle pas, c'était un des classiques. Et puis moi je me suis arrêté vraiment il y a très très loin. Donc ça va être la surprise et la découverte hein. Quand même. Ah ouais. Ah ouais.
Donc si pour l'histoire en fait il s'agit de deux races d'extraterrestres. L'une les noms des races sont des anagrammes de manga et de Walt Disney. Oui, il y a des espèces de clin d'œil à Goldorak, à Mickey, etc. Et puis en fait, les gentils dans l'histoire, c'est la race Walt Disney. Et les infâmes méchants, c'est les mangas.
Ouais, on mange à tous les râteliers.
C'est à peu près ce que l'on a dit. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai un avis très, très, très défavorable vis-à-vis de ce bouquin. Mais il y en a d'autres qui ont estimé que c'était un bon divertissement pour les gamins. Donc ça allait leur plaire.
Ouais, mais ça a l'air putassier quand même à la première approche. Hein. Je suis désolé.
Ah, oui, c'est clair que malheureusement, comparé aux Astérix qui ont été créés par Goscinny, ça ne s'adresse qu'aux gamins, ça s'adresse pas aux adultes. Bah oui, mais je veux bien, mais je veux dire au scénario. Ça n'a pas de réel.
Pas pareil, quoi. C'est pas pareil.
Bon, d'accord.
On va acheter des armes de suite hein, pour régler ça.
On va pas charger la mule quand même.
Oh, mais c'est vrai que c'est un peu déplorable et. Et que bon, il y aurait pu avoir une vraie guerre.
With the golden gun.
C'était ouais, tu disais, excusez-moi, j'avais oublié de monter le fond.
Je disais que c'était une bonne intro pour la chronique suivante. The Man with the Golden Gun, dont j'ai oublié l'interprète d'ailleurs.
Lulu,
voilà. Bon, eh ben, si on attaquait le gros morceau, la claque qu'on s'est prise mercredi là, c'est. Voilà, on est dans le cinéma là. Et c'est Lord of War de Andrew Niccol. Ah, c'est pas mal le fond sonore. Pas mal. Alors, c'est Andrew Niccol. Je pense que vous avez appris à connaître son nom maintenant. C'est le mec qui avait commencé par la réalisation de Bienvenue à Gattaca. Et parallèlement, un film dont il avait écrit le scénario sortait, c'était The Truman Show. Entre temps, il a fait Simone avec Al Pacino. Et puis voilà, son dernier opus, c'est Lord of War avec un casting, on va dire c'est du lourd. Hein. Alors il y a Nicolas Cage dans le rôle principal, il y a Jared Leto. Jared Leto, vous l'avez vu assez souvent dans des films assez couillus et assez punchy, dans Fight Club, dans Panic Room, dans Alexandre. Voilà, donc de toute façon Jared Leto dans ses films, vous pouvez pas vous tromper, c'est toujours le mec avec la gueule, une gueule d'ange qui se fait soit démonter la gueule, soit shooté à la drogue, soit buté. Voilà, il finit toujours comme ça de toute façon. Ensuite il y a aussi Ethan Hawke qu'on avait vu dans un des précédents films de Niccol,
c'était
dans
Gattaca,
voilà. Il y a également Ian Holm et Bridget Moynihan. Alors c'est la fille qui jouait le rôle principal féminin dans iRobot. Et il faut savoir que son rôle, la femme de, elle joue le rôle de la femme de Nicolas Cage et devait au préalable être interprétée par Monica Bellucci, mais sauf que celle-ci était enceinte, donc elle a dû être remplacée. Et elle joue le rôle d'une top modèle française, un film d'origine ukrainienne aussi, je crois. D'après,
non, elle est d'origine ukrainienne.
Voilà, d'origine ukrainienne, mais ouais. Elle a un nom francophone. Voilà, donc c'est l'histoire de Yuri Orlov, immigrant ukrainien avec sa famille, qui choisit. Bah, il se dit, plutôt que de reprendre le resto familial, bah si je vendais des armes à la place, on dirait que ça rapporte un peu plus. Et on suit son parcours des années, du début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, qu'il verra s'accomplir en tant que vendeur d'armes, un des plus puissants sur le marché à la fin de, au fil de l'histoire. Et un parcours qui fait effectivement froid dans le dos. On peut vous dire. Parce qu'on va avoir un peu du mal à parler de ce film parce que c'est quand même. On peut pas trop faire de sketch dessus, pas de vannes non plus.
Non, on peut vraiment pas rigoler dessus. Non. D'abord, on se prend une claque d'entrée dès le générique.
Ah oui, le générique.
Absolument énorme. Et de toute façon, le propos est extrêmement grave. C'est que les 5 pays qui siègent à l'ONU sont les 5 plus gros vendeurs d'armes. À partir de là, n'ont pas trop intérêt justement à ce qu'il n'y ait plus de guerre du tout sur Terre, puisque voilà, il faut faire tourner les industries. Et comme ils sont bien hypocrites, et ils utilisent des intermédiaires pour vendre ces armes, etc. Et c'est justement le rôle qu'interprète Nicolas Cage avec donc ce fourgueur de mort. Mais je crois le plus hypocrite, c'est le discours qu'il tient.
Ah oui, mais ça c'est un florilège. J'avais noté quelques phrases quand l'autre il lui dit mais ça vous fait rien que de vendre des instruments de mort et tout. Non, moi ce qui me va c'est qu'ils achètent des armes et qu'ils les utilisent. Moi bon, après je préférerais évidemment qu'ils ratent les enfants et tout, mais du moment qu'ils tirent, moi je suis content.
C'est impressionnant de voir quand il entend une Kalachnikov au ralenti. Et tout d'un coup, lui, il entend le bruit du tiroir caisse. Alors que c'est un gamin qui tire sur d'autres gamins, quoi. T'es là, tu fais ah, ça fait extrêmement mal. Ensuite, c'est le discours qui tient, c'est bon, voilà, il y a 500 millions d'armes qui circulent à travers le monde, ce qui en fait une pour 12 personnes.
Et moi, mon rôle, c'est que justement ça...
les 11 autres puissent y avoir accès.
Voilà. Alors, on est partagé.
Ça fait mal, quoi.
C'est ça qui fait la force du film, c'est que tout le long du film, c'est un film qui est pas dénué d'humour, au contraire, mais c'est un humour extrêmement noir, extrêmement cynique. Et au moment où tu vas rire, tu aperçois l'énormité du fait qui va te faire rire, et tu te dis ah non, je peux pas. Et c'est tout au long du film, tu es sur ce fil-là, des fois tu essaies de rire, mais voilà, tu peux pas.
C'est vraiment le. Je pense que c'est un acte citoyen d'aller voir ce film puisqu'ils ont eu des problèmes de production. Ça, Thomas, tu comptes en parler ?
Oui, ben en fait, le Andrew Niccol a eu toutes les peines du monde pour essayer de trouver le financement de ce film. Alors évidemment, tous les producteurs et toutes les majors hollywoodiennes lui ont dit « Niette, c'est pas possible, non, tu vas aller voir ailleurs ». Et finalement, c'est le fils d'André Rousselet, Philippe, je crois qu'il s'appelle, qui a créé avec Andrew Niccol une société de production qui s'appelle Entertainment Manufacturing Production et qui s'est démené comme un beau diable pendant un an pour trouver des financements qui sont provenus essentiellement d'Afrique du Sud et d'Allemagne. Et c'est comme ça que le film a pu voir le jour. Et il y a une anecdote qui frappe aussi, c'est que toutes les armes qu'on voit dans le film sont des vraies armes, parce que pour des questions de budget, ça coûtait trop cher de faire fabriquer des armes factices. Donc ils sont adressés à des trafiquants d'armes, justement, qui dénoncent dans le film. Et ils ont contacté un trafiquant, ils ont dit « Bon, on aimerait bien tant de chars, tant d'armes et tout, à 9h mardi matin. » Et puis le mec, il a livré les tanks parfaitement alignés. Et voilà, toutes les armes qu'on voit dans le film ont été, d'ailleurs, revendues après le tournage. Et entre Nicole s'amuse, il dit « Ouais, mais bon, on n'a pas fait le bénéfice dessus parce que je suis... pas aussi bon vendeur d'armes que Nicolas Cage.
Ouais, mais enfin, personnellement, moi, ça me fait mal de savoir où sont passées ces armes. Mais c'est assez glaçant de voir que on peut vendre des hélicoptères de guerre comme du matériel de secours ou des hôpitaux volants ou des trucs comme ça. Comment détourner un embargo, c'est glaçant. Chaque fois qu'on voit ça,
des anecdotes dans le film qui sont vraies.
C'est uniquement basé sur les faits réels et d'ailleurs je crois que la biographie est légèrement romancée mais c'est pas mal inspiré de pas mal de personnes réellement.
5 trafiquants d'armes ont servi pour faire la base du personnage effectivement.
Et ça fait royalement peur.
Et tous les tanks et les armes qui sont présents dans le film équivalent à plus du ils sont plus importants que le budget de la République tchèque. De l'armée de la République tchèque.
C'est assez effarant, ouais.
Voilà, donc on peut parler un peu de l'interprétation. Donc Nicolas Cage, justement, il a abandonné son côté halluciné. Bon, il en a un petit peu dans le film parce que effectivement, ça nécessite ça dans le scénario. Mais on est loin du Nicolas Cage volte-face, du psychopathe, du The Rock, Snake Eyes et tout. Il a plus les yeux hallucinés ni rien. C'est un mec super sobre. Et effectivement, il a pris un peu de joue parce qu'évidemment, le poids des ans, ça fait commence à se faire ressentir. Et c'est vraiment ce qu'il fallait pour interpréter ce personnage. Et j'aurais une mention spéciale aussi, mais je me souviens plus du nom de l'acteur. Ça, c'est dommage, c'est l'acteur qui joue, tu seras d'accord avec moi Xavier, André Baptiste, le dictateur du Liberia.
Oh. Bon, y en a un que vous avez oublié et que je connais qui s'appelle Eamon Walker, hein, le Black.
Qui, ah mais c'est lui.
C'est lui.
Eamon Walker, hein, qui est anglais, qui vient du théâtre, des prestigieuses compagnies de théâtre anglaises, et qu'on a vu et qui est absolument magnifique dans une des meilleures séries du monde, Oz. Où il joue le rôle du leader musulman Karim Saïd.
Et ben là,
effectivement, c'est lui.
Voilà. Là, il joue le président du Liberia, mais un mec,
Il est très très bon.
Psychopathe, lui, monstrueux. La manière dont c'est joué, c'est glaçant et surtout, c'est.
Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes, seul son regard suffit. C'est vraiment.
Absolument, oui.
Ah ouais, mais surtout, c'est quand on voit tous les dégâts là où ils sont allés tourner, les mutilations sont réelles, ça fait peur. Il n'y a pas d'autre terme.
Au final, moi, le film m'a fait penser à Scarface, en fait, pour le dessin tragique d'un petit mec qui veut s'affirmer par lui-même, partir à la conquête du monde et tout. Mais on est loin de l'exubérance de Pacino et du personnage de Scarface, mais le destin est à peu près le même. Sauf que, on va pas vous spoiler la fin, mais le film ne peut pas se finir comme Scarface, malheureusement. Et c'est vraiment le dénouement qui fait. Enfin, le film est d'une force absolument vertigineuse, mais le dénouement participe vraiment à ça. Et voilà.
En tout cas, nous, on vous le recommande parce que vous allez vous prendre une immense claque dans la gueule. Et ensuite, parce que voilà, il faut justement que ce film fasse du bruit. Mmh. Il en fasse énormément pour arrêter l'hypocrisie. Par exemple, on a vendu pendant des années, en France même, hein, et on les fabriquait pas très loin d'ici d'ailleurs, des armes antipersonnelles et des munitions, et on les déclarait comme feux d'artifice et on les a exportés. Il y a eu quand même des centaines de milliers d'enfants qui ont été estropiés avec ça. Donc faut pas hésiter, faut aller le voir. Pourquoi ? Ben justement parce qu'il faut que ce film fasse du bruit et commence à enclencher un véritable débat. Moi je pense que c'est vraiment important de ce côté-là.
Pour moi personnellement, c'est un des chocs de deux dernières années en tout cas.
Donc voilà. Donc Thomas, redonne les.
Alors il s'agit donc de Lord of War, réalisé par Andrew Niccol et qui est sorti mercredi dernier, qui est visible dans toutes les bonnes crèmeries. À voir effectivement de préférence en VO.
Pour l'incroyable prestation de Nicolas Cage, où il parle aussi bien en ukrainien, en russe, en français, en arabe, en espagnol, en anglais évidemment, mais c'est impressionnant. Et en plus, il a une bonne maîtrise. Hein. Je peux dire qu'en espagnol, il n'a pas trop d'accent. Et l'ukrainien, ça va quoi, il maîtrise depuis Little Odessa.
Voilà. Il jouait pas dans Little Odessa, mais.
Ah, pardon.
Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Mais en tout cas, c'est impressionnant. Vraiment, c'est à voir.
Et si on dédramatise un peu en mettant l'extrême musical, tu fais bien triper là.
Thank you. Midi 41.
Ah, on avait dit qu'on ferait soft aujourd'hui.
Et c'est du sport qui va faire la rubrique DVD et qui entame les soldes.
Cette année,
dans ma famille, on a fait un concours, c'était des cadeaux à pas plus de 10 euros chacun.
Ah oui.
Et c'est faisable.
C'est faisable. Et si vous... Bon, c'est pas une nouveauté parce que si vous lisez les revues spécialisées de cinéma, DVD, tout ça, ils ont parlé de cette collection, du moins les canards que je lis et qui parlent de cinéma. Il s'agit de la société Back Film, Back comme Jean-Sébastien, et qui propose en fait tout un catalogue de DVD dans tous les genres, hein, que ce soit polar, science-fiction ou même drame, mélo, comédie, qui propose donc des films qui pour la plupart sont tombés dans le domaine public, c'est-à-dire où il n'y a plus de copyright à payer, et donc eh bien, le seul coût en fait, c'est de fabriquer les copies. Donc, on peut trouver ces films à pas cher, à pas cher, à pas cher. À pas cher, c'est-à-dire que, bon, ben, les, tu vois, là t'en as une 6 ou 7, 5,90 le DVD.
Ah
que
ouais.
C'est pas cher.
Ah, je pensais 10 euros,
que
ah non,
c'est
5,90,
pas cher. Non, 5,90, voilà, hein, c'était le prix minimum de toute façon, hein, que j'ai pu repérer dans différents endroits. Il y a quelques chaînes qui sont spécialisées dans les discounts machin et tout, qui diffusent, bien entendu, ce genre de produits, mais également dans certaines grandes surfaces. On peut trouver quelques exemplaires. Alors attention, 5,90 c'est le prix minimum. Vous les trouverez pas en dessous, sinon ouais dans les trucs d'occasion. Hein, mais là il s'agit de trucs. Tu vois,
là on parle de neuf. Oui.
Tu vois là celui-là il a encore le cellophane.
Cellophane. Ouais.
Et en fait c'est assez intéressant parce qu'il s'agit de films donc très très vieux, des très connus, des pas trop connus et des franchement inconnus. Il y a de tout. Le très connu, allez domaine public. Hein, mm-hmm. Bah c'est quand même, ça fait que plaisir quand même à la fiancée de Frankenstein. Boris Karloff, c'est la suite de Frankenstein,
Stein, ouais. Hein,
d'accord, ok. On a dans le même genre le voleur de cadavres avec Bela Lugosi, ouais, on rigole. Alors là, ça c'est une curiosité, quoi. Il faut le faire quand même, Jesse James contre Frankenstein, l'histoire c'est pas compliqué, c'est que le docteur Frankenstein Victor de son prénom et son aide, son assistante, il faut que ce soit une nana comme ça, une dimension un petit peu vaguement érotique, mais enfin bon, faut chercher quand même, et ils se sont fait virer de partout parce que chaque fois ils chopent des cadavres et puis bon les villageois sont pas contents, donc ils leur foutent le feu et donc ils sont obligés de s'expatrier à chaque fois, et là ils se retrouvent dans l'ouest américain peinard tranquille dans une petite ferme et tout, et malheureusement eh bien Jesse James dans le patelin voisin eh bien il manque de se faire pincer par une espèce de milice qui s'est constituée pour essayer de le choper parce que comme il est vachement connu, sa récompense c'est pas mal de pépettes, et donc eh ben, il va se réfugier dans un petit truc là, qui se trouve être le truc de Frankenstein, et c'est son son copain, et là il y a une dimension érotique équivoque on va dire entre le copain de Jesse James, l'amitié qu'ils se portent tous les deux, qui servira donc de cobaye à Frankenstein. C'est assez rigolo, hein, c'est pas mal du tout. Alors dans le domaine il y a également Buster Keaton, les trois âges. Alors celui-là j'ai pris parce que je connaissais pas, mais vous trouvez également le Mécano de la Générale, enfin les gros classiques de Buster Keaton. Il y a également des Roger Corman, En veux-tu en voilà, dont La Femme Guêpe. Alors ça c'est pas mal, hein, c'est une histoire qui est assez rigolote.
Ah oui, on fait voir la couverture.
Tiens, de toute façon je te prête, hein, si tu veux, il y a pas de problème. Hein. C'est l'histoire d'une nana qui a la tête d'une industrie de cosmétiques et qui a fondé toute la pub de sa boîte sur sa beauté, sur sa jeunesse. C'est-à-dire c'est elle qui est l'emblème en fait de sa société. Hein, parce qu'elle le voit bien. Et bon, mais ça fait quand même quelques années. Et bah, quand même, malgré tous ses efforts, bah, elle ressemble plus tellement à une jeune fille de 20 ans, vu qu'elle commence à avoir pratiquement la quarantaine. Mais elle est toujours assez mignonne, il faut le dire. Et donc, elle se met en quête d'un espèce de produit qui pourrait bien lui faire avoir une taille de guêpe indéfiniment, et elle va la trouver dans une espèce de savant fou qui se fait virer, qui faisait des recherches sur les abeilles financées par l'État, mais l'État coupe les vivres, donc il se retrouve à la rue, il est hébergé, mais le vaccin et le produit injecté, eh bien, n'a pas tous les effets, de régénérescence et de maintien de l'âge. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres effets également qui sont pas top du tout, vu qu'elle commence à dégommer tout ce qui bouge et quand elle se transforme. Là, c'est rigolo. On a également Polar, également un petit Ström, un film d'Anthony Mann quand même, hein, La cible vivante, c'est pas un des plus connus. Hein. Ça, c'est une histoire assez intéressante et tout. Et puis bon, c'est l'histoire classique du mec qui le début c'est la fin, hein, au début du film, on voit le mec qui va expliquer l'histoire et tout, alors qu'il est en train de crever et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est pas mal. Hein. Un bon Ström, de toute façon, là il est vraiment très très bien. Hein. Un mec qui se fait niquer la tête par une nana et tout, enfin c'est vraiment très très bien. Et encore un Corman, il est bien celui-là avec William Shatner, The Intruder, il date de 62-63. Où Shatner était déjà un petit peu connu vu qu'il avait déjà fait Jugement à Nuremberg. Et dans celui-là, il est vraiment excellent, car il joue le rôle d'un mec qui arrive dans une ville moyenne américaine et il vient foutre la merde parce qu'il vient propager des idées franchement racistes à l'époque où justement il y a une espèce de cohabitation.
Années 50-60, oui.
Oui, il y a une espèce de cohabitation qui commence à s'installer et il y a déjà des lois qui ont été votées dans différents États qui veulent dire bon ok les Noirs ont les mêmes droits, nanana, tout le bordel et tout. Alors les gens sont plutôt sur le statu quo et lui il est là, il arrive dans le village en espèce de prêcheur un petit peu pas trop illuminé mais bien rentre dedans, qui vient foutre la merde et qui vient un petit peu échauffer la foule de telle manière à ce que ça va arriver jusqu'au lynchage. Je vous spoil quand même pas trop la fin. Alors la particularité c'est que la plupart de ces films, La Femme Guêpe, celui dont je viens, Intruder, Jesse James contre le voleur de cadavres, sont des films qui à l'époque a bien été diffusés dans ce qu'on appelle le double programme, les séances double programme, à savoir qu'on pouvait voir deux films pour le prix d'un ticket. Pourquoi aussi on se faisait pas chier, parce que ces deux films étaient d'un format un peu plus court que le format qu'on a habituellement. C'est des films qui faisaient 1h10, 1h20 on va dire maximum, et donc on pouvait se payer le luxe justement, c'est pas trop chiant de voir deux films à la suite, parce que t'imagines le Seigneur des Anneaux 1 plus le Seigneur des Anneaux 2. Merci les gars et tout, ça va quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que bon, ça vaut le coup, hein. Il y en a d'autres, hein. Là c'est indicatif de toute façon. Il y a également des gros classiques comme le Charade de Stanley Donen, enfin des trucs comme ça, vraiment il y a de tout, c'est pas mal, c'est assez intéressant. De la télé à présent avec je suis tombé sur cette pub là dans l'équipe.
Lui il y va direct, tu vois, dans la télé.
Tu vois,
toujours plus haut.
Toujours plus haut, tu vois.
Ah ouais.
Et en fait c'est une pub pour TF1.
Dans laquelle ils font ça tous les ans.
Ils font ça tous les ans, dans laquelle ils ont marqué les 100 plus grandes audiences de l'année. Et sur les 100 plus grandes audiences de l'année, sur cette pub, ils nous disent qu'ils ont fait les 97 meilleurs, laissant que des miettes à Antenne 2, hein, ou France 2. France 2 qui se trouve à la 15e position, tranquille, avec le 20h de Béatrice Schoenberg du 25 septembre. Et c'est le match de foot France-Chypre, c'est même pas France-Suisse, c'est France-Chypre.
Là où ils sont qualifiés.
Parce qu'après il y avait la Suisse.
Ah oui.
Où la Suisse avait plus, je me rappelle plus. Enfin, France-Chypre. Ouais. France-Chypre donc 13,3 millions. Suivi après par, on remarquera que c'est surtout les séries qui intéressent, hein, les téléspectateurs.
Les experts
de TF1. Même pas les experts, sont vraiment très très bas, hein, très très bas. Sont encore à la limite dans les plus de 10 millions, je crois. Hein, le premier expert a capté plus de 10 millions. Mais enfin, c'est surtout Dolmen, hein, qui écrase tout à fond les manettes. Deuxième position avec le sixième épisode de Dolmen, 12,9 millions. Ensuite, en troisième position, on a le 20h de PPDA du 7 novembre. Ensuite, 4e, 5e, 6e et 7e position, Dolmen 4, Dolmen 1, Dolmen 5 et Dolmen 3. Et juste après, le premier film cité, le premier film qui a fait le plus d'audience l'année dernière sur TF1, c'est Le Dîner de Cons avec 11,5 millions, suivi de près par Spider-Man avec 11,1 millions. Et on notera que du côté des séries, vraiment séries, c'est bien entendu les séries de TF1,
ah oui,
Les Cordiers devant Julie Lescaut et Une Femme d'Honneur, hein, alors que Dans la tête du tueur est juste un petit peu plus bas. Et là, je trouve ça quand même bien, quoi, qu'il y a eu 10,3 millions de personnes qui aient pu voir ce téléfilm excellent avec Thierry Frémont, hein, l'histoire qui retrace un petit peu l'histoire du tueur en série Francis Holm. Voilà. Il y a des séries maintenant, bah ouais, il me reste 10 minutes tranquille, quoi, facile, facile. Des séries, je t'avais dit hier, de l'inédit, à fond les manettes.
Ah yes! Hein,
c'est bien parce que les chaînes, là, jusque fin janvier, début février, mi-février, on va avoir de l'inédit et de la série sur pratiquement toutes les chaînes. C'est pas mal quand même.
Ouh, j'ai vu Samurai Champloo hier sur Canal.
Et ouais,
grandiose. Hein.
Et ça commence dès demain soir avec une série argentine qui s'appelle Epitaphios. Epitaphios, qui est en fait une série produite par la filiale sud-américaine d'HBO. HBO qui fait, on va dire, ce qui se fait de mieux comme série, enfin, qui est un petit peu l'étalon, on va dire, hein, avec Les Sopranos, Deadwood et beaucoup d'autres. Deadwood qui va arriver sur Canal, mais ça sera le mois prochain, en février. HBO donc qui a lancé une filiale sud-américaine qui s'appelle HBO Olé et qui donc pour sa première production a bien produit cette série argentine en 13 épisodes. C'est la première saison, ça a été tourné en 4 mois, ça a marché du feu de Dieu, hein. Ça a été revendu dans pratiquement tous les pays sud-américains et actuellement c'est en cours de diffusion aux États-Unis en prime time, en version originale sous-titrée. Là ils ont quand même des couilles de le faire, faut dire, parce qu'on sait
oui mais attends, c'est sur le câble, hein.
Ouais on sait que les ricains abhorrent ce genre de truc là même à la télé, quoi, donc oui, c'est quand même un pari audacieux, quoi.
On peut faire croire qu'en France aussi on n'aime pas les sous-titres d'ailleurs, à ce qui paraît.
Ouais. La première saison, donc 13 épisodes à voir dès demain soir, donc sur Canal Jimmy. L'histoire, eh bien, on suit Renzo Marquez, interprété par Julio Chavez. C'est pas le boxeur mexicain, c'est un Argentin, hein, un ancien flic qui est devenu chauffeur de taxi après une affaire qui est survenue 5 ans plus tôt et qui s'est terminée par 4 étudiants brûlés vifs. Ils arrêtent le coupable, enfin bon, c'est quand même un petit peu... Et il va reprendre du service parce qu'il est mis au défi par un serial killer vengeur en compagnie de l'ancienne psy Laura Santini, qui est interprétée par Paula Krum, et de l'enquêtrice Marina, interprétée par Cécile Roth, qu'on a pu voir dans Tout sur ma mère, le film de Almodovar. C'est à partir de demain soir sur Canal Jimmy, donc 2 épisodes à la suite, à partir de 20h45, diffusé en VM, hein, c'est-à-dire qu'on peut le voir en version originale ou en version française, si on a la zapette qui correspond, bien entendu. De l'inédit encore, et là c'est sur TF1, et là c'est un nouveau pari de TF1, alors on va voir, je vais surtout pas en dire de mal pour l'instant, on va voir.
Attends,
avant
laisse-moi
de
deviner.
Casser. Il s'agit de RIS Police Scientifique.
Oui, j'en étais sûr.
Comment ça s'appelle?
RIS
Police Scientifique.
C'est quoi?
Et en c'est fait, du CSI à la française.
Voilà,
ah oui,
ça.
Le
alors,
truc dont parlait Martin Leclerc.
Tous ceux qui possèdent un ordinateur savent à quoi correspond le terme copier-coller.
Justement, ce qu'il dit, ce que Thomas a fait allusion à Martin Winkler, c'était très intéressant ce qu'il disait là-dessus, parce que bon, faut savoir que la police scientifique a été créée en France.
Exactement.
À la fin du 19e avec les premières photos anthropomorphique et
par monsieur Bertillon.
Exact. Et les relevés d'empreintes, les premiers, hein, au moment où justement Gaston Leroux écrivait Rouletabille. Et après, ça a été un peu abandonné. Bon, on a réappris à utiliser les fiches dans les années 40, mais je veux dire, c'était peut-être pas l'acte le plus glorieux de la police française. Et donc, ce qu'il disait, c'était assez intéressant, c'est sur pourquoi les séries françaises policières sont faites d'une certaine manière.
Oui, il comparait avec les séries américaines qui disaient qu'en France, les flics pouvaient faire craquer les suspects dans des salles d'interrogatoire, et c'est pour ça que les séries françaises, les climax étaient souvent basés sur l'aveu et pas sur les preuves à l'américaine. Et justement, il disait aussi, par rapport au format de 90 minutes en France et 52 minutes aux États-Unis, il disait oui, en France on a l'habitude de cracher sur les États-Unis parce qu'il y a 3 coupures pub par épisode. Il disait mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre ici, c'est que justement c'est bénéfique pour l'épisode parce qu'à juste avant chaque pub il faut qu'il y ait le relancement de l'intrigue, et c'est pour ça que les épisodes sont si intéressants.
De toute façon, hein. Alors c'est un gros pari parce que justement ils adaptent, TF1 adapte le format américain, savoir 52 minutes par épisode, donc on en aura 2 à la suite jeudi prochain à partir de 20h50, interprété par Stéphane Metzger, Pierre Lourageau, c'est le plus connu, et Aurélie Bargem entre autres. On va tomber dans les mêmes défauts en fait que la série équivalente américaine, hein. Sauf que aux États-Unis, l'organisation hein, de l'enquête est un petit peu plus diffuse, on va dire. Alors qu'en France, c'est vraiment très très séparé. Hein. Ceux qui vont sur le terrain ne font que ça. Ceux qui analysent dans les labos ne sortent pas des labos pour aller sur le terrain choper les indices ou retourner sur. Ça n'existe pas. Ce sont les enquêteurs qui s'en chargent. Alors que là, bon bah ok, c'est calqué sur le système américain. Et ce sont pratiquement on va voir l'équipe mener l'enquête de bout en bout pratiquement, hein, c'est-à-dire depuis la découverte des cadavres ou des attentats jusqu'à la résolution de l'enquête. Premier épisode, alors un petit truc bateau, hein, bah, justement c'est un bon test, hein, je pense, parce que bon bah c'est l'histoire, le synopsis, le pitch tout à fait banal. Un gros entrepreneur de la région qui est retrouvé mort, noyé dans sa piscine, et des analyses qui révèlent que il y a des traces d'alcool et de benzodiazépans. C'est-à-dire benzodiazépans,
c'est un antidépresseur, oui.
Barbiturique plutôt, quoi, il me semble. Ouais. Voilà, le deuxième, ça s'appelle Une vie brisée. Le deuxième épisode est plus rigolo par le pitch.
Oh non.
Ça s'appelle Père en détresse. En fait, c'est une l'histoire est simple. Ça commence par une bombe qui explose dans une église et qui blesse le sacristain. En fait, l'explosif qui était composé de désherbant a été placé dans un cierge. Donc ça peut être rigolo. On va voir ce qu'ils arrivent à nous sortir sur ça. Donc c'est sur TF1 à partir de jeudi prochain à 20h50, donc sur la case des gros blockbusters de TF1, à savoir les Julie Lescaut et Navarro. Ouais.
Et ça dure donc 52
minutes. Deux fois 52 minutes, enfin deux épisodes, donc 52 minutes par épisode. Donc à partir
enfin, pendant l'heure du plus grand commissariat de France. Hein.
Voilà, de l'inédit encore, c'est sur Paris Première. Mercredi prochain, alors mercredi soir c'est l'enfer, c'est ça se bouscule, tu sais pas quelle chaîne mettre, il faut avoir trois machines pour enregistrer en même temps. Enfin bon,
d'ailleurs si vous pouvez vous associer pour parce que là on va pas s'en sortir.
C'est néanmoins assez tard hein, cette mini-série qui nous vient de Grande-Bretagne, inédite, complètement inédite, donc à la télé française, qui s'appelle Conviction, ou Conviction en français. C'est diffusé sur Paris Première mercredi prochain à partir de 23h30 jusqu'à 0h30. Et vu le sujet, c'est siglé moins 12, donc déjà 1. Et vu le sujet de cette mini-série, c'est deux inspecteurs sur la piste et à la recherche d'un pédophile. Mais ça vaudra le coup certainement parce que l'un des deux inspecteurs est interprété par le grand, l'immense, le magnifique David Warner, dont je vous fais une bio dès la semaine prochaine dans cette émission.
Yes.
D'accord. Là, on va déborder. Là, je vais
jouer dans la planète des singes. Tim Burton,
n'entame pas, prends pas de l'avance là. Pour une fois, on est presque là.
Il va me falloir un cahier, pas quelques feuillets, tu vois. Conviction qui passe juste après sur Paris Première. Après le bonheur d'une nouvelle saison de Nip Tuck qui commence mercredi prochain. Troisième saison de Nip Tuck. Donc à partir de 22h40, on les a laissés dans de sales draps. Hein, ça, c'est vraiment, on peut dire que la fin de la saison 2.
Surtout Julianne McMahon.
Julianne McMahon, il en a pris plein la gueule, quoi. Donc, on sait même pas s'il il va réapparaître. Enfin, si, quand même, bon, sans doute.
Ah ouais, s'il n'y a plus de série. Sinon.
Mais bon, comment ils vont expliquer le trip, c'est ça qui va être intéressant. Parce que scénaristiquement, moi, je reconnais que, chapeau les gars, ils font quand même vachement fort, hein, les scénaristes de Nip Tuck, de toute façon. C'est mercredi prochain à partir de 22h40.
C'est sur quoi, sur M6?
Sur Paris Première aussi, Paris Première.
Pour M6, faut attendre la rentrée, c'est ça?
Pour M6, j'y viens, mon petit gars.
Ah.
Mais tout d'abord, attends, je tourne.
Attends, j'ai un nouveau cette chaîne et franchement, j'ai été super déçu parce qu'hier, la soirée Télé Bière Pizza sera dans le top 5 des soirées les plus pourries des Télé Bière Pizza en ayant vu les 4400. Je trouve ça nul.
Ah putain, j'allais en parler justement. Quoi. Ah. Enfin,
bon, allez,
vu que c'est rediffusé. C'est tous les vendredis soirs sur M6 à partir de 20h50. Voilà, et M6 qui vous propose également à partir de lundi. Et là, ouais, tout le monde est d'accord. Kaamelott, la troisième saison.
Yeah,
yeah.
Voilà, que du bonheur sur M6. C'est toujours aux alentours de 20h35, 20h40. Sinon, M6 qui vous propose également La diffusion est là, c'est bien parce que c'est sur le réseau hertzien, on avait pu le voir sur le câble. De Kingdom Hospital, cette série complètement zarbe, légèrement starbée, on va dire, hein, qui est inspirée de L'Hôpital et ses fantômes.
Ouais,
de
mais c'est ça que je trouve déplorable, c'est qu'il y a marqué Stephen King présente, alors que
mais
franchement,
c'est
il aurait fait.
C'est l'adaptation qu'en a fait Stephen King avec
ouais,
un autre
je suis
mec
désolé.
Dont je me rappelle pas le nom. Et voilà. Et
je suis désolé, je trouve celle de Lars von Trier était absolument sublime.
Alors.
Quoi.
Alors, c'est visible donc tous les samedis soirs sur M6 après les Dead Zone, dont c'est également la diffusion à partir de ce soir de la saison 4 inédite. Donc, deux épisodes de Dead Zone à partir de 20h50 sur M6, suivi à 22h30 donc de Kingdom Hospital. J'ai oublié de vous parler de la série inédite de France 4 qui, décidément, nous trouve quand même des trucs vachement intéressants, moi je trouve quoi. À la Maison Blanche, ils nous rediffusent bon, pas forcément des inédits, sauf que celle-là est complètement inédite. Hein, pour c'est une des premières, je crois. Ça s'appelle Charlie Jade, détective des mondes parallèles. Alors là, c'est un truc qui est pas tellement utilisé, mais en fait c'est un détective qui se balade entre trois mondes parallèles. Le monde qui va être tel que on le voulait pas, mais bon, on n'a pas le choix. Le monde qui aurait pu être le meilleur des mondes possibles, et le monde qui vraiment c'est la zone et tout. Et il se balade dans ces trois mondes, le alphaverse, le bêtaverse et le gammaverse. Voilà, tu vois. C'est sur France 4. Après, à la Maison Blanche.
C'est anglais,
ce soir.
Si je me trompe.
Non, c'est ricain, hein, me semble-t-il. Hein.
Ah, ouais, ok. Ouais.
C'est ce soir donc à 22h20 après les deux épisodes de À la Maison Blanche, et je sais pas si je vous en ai parlé en fin d'émission l'année dernière, mais l'un des interprètes de À la Maison Blanche est décédé. C'est arrivé le 16 décembre dernier. Il s'agit de John Spencer, le secrétaire de La Maison Blanche, le secrétaire de Martin Sheen, le mec aux cheveux blancs et tout, qui a des problèmes d'alcool dans la première saison et tout ça, qui règle toujours tous les petits problèmes et tout. Et donc l'acteur John Spencer est décédé le 16 décembre dernier. Sinon, ouais, du côté de l'inédit, c'est tout. Mais par contre, je voulais encore une fois, vous reparler de Re-Genesis, cette excellente série qui est diffusée tous les mercredis soirs sur 13e rue. Re-Genesis, je resitue un petit peu, toi tu le sais, pas du tout. Hein. Alors l'histoire est d'une équipe de pointe à la recherche en biotechnologie, en microbiologie et tout ça, qui est chargée de... un petit peu comme NIH quoi, tu vois, c'est un petit peu le même genre, hein, c'est-à-dire il y a des idées, ils cherchent les causes des épidémies, des morts suspectes, des histoires de bioterrorisme, de grippe aviaire, un petit épisode sur la grippe aviaire, tout ça. Alors la série, c'est une série canadienne, hein, c'est pour ça que bon, bah, y a certains carcans dont ils s'affranchissent assez aisément, et ça c'est quand même pas mal, vu que le héros, hein, le patron du labo Norbach, le docteur David Sandstrom, est un mec qui est séparé de sa femme, qui vit avec ses nanas, qui se tape une nana pratiquement tous les deux épisodes, il se tape une nana, une autre, une différente, hein, sans problème, hein, le dernier épisode, donc moi-même à poil avec de la guitare et tout, bon, ça va, il picole, il a toujours du bon whisky et tout, il arrive tous les matins au labo avec une gueule de bois, un truc pas possible, mais il est quand même hyper génial. C'est pas le plus génial, il y en a un autre qui est encore plus génial que lui, hein, c'est un microbiologiste qui a un QI de 175, enfin bon, c'est délire. C'est un petit peu irréaliste parce que bon, dans une équipe normale telle que celle-là, une équipe de pointe, hein, composée des meilleurs dans leur domaine, on pourrait imaginer que la pyramide d'âge est un petit peu décalée, alors que là ils ont pratiquement tous le même âge, on dirait, hein, à 5-10 ans près, hein. Il n'y a pas de très très vieux ou de petits bleu-bites de mecs entre les deux, non, ils ont tous l'air d'avoir pratiquement le même âge, tu vois quoi. Bon, ok, c'est cool, comme ça les rapports c'est plus cool quoi, mais ça en reste pas moins une excellente, vraiment excellente série, hein, que je vous conseille de regarder, hein. Les thèmes sont vraiment très très bien abordés, il n'y a pas de langue de bois, et justement comme c'est une série canadienne, ils arrivent à jouer sur cette espèce d'effet, sur cette espèce d'antagonisme qui existe entre les Américains et les Canadiens, les Ricains qui parlent des Canadiens comme nous on parle des Belges quoi, dans le même style, et les Canadiens qui arrivent bien à renverser la vapeur comme ça quoi, avec des répliques assez percutantes. C'est vraiment très très bon, hein. Re-Genesis, je vous le conseille, donc c'est tous les mercredis sur 13e rue à partir de 20h50. Voilà, c'était un petit peu le bordel dans les trucs, donc Je voulais vite terminer là en vous parlant de.
Il est 13h05, hein. Ouais. J'avais oublié le jingle.
Je fais un petit peu de pub quand même. Alors vous avez vu ça à la télé et tout ça. C'est la nouvelle collection de super figurines Marvel avec le numéro 1, c'est Spider-Man.
Et par contre, en Chine.
Ouais, mais c'est pas ça. Le seul truc qui est intéressant pour les gens qui sont pas trop au courant, alors dans le numéro 1, bon, comme c'est Spider-Man, on a un petit historique, tu sais, avec des planches originales, des historiques avec les différents personnages.
Bon, je rappelle que pour être distribué en presse, il faut au moins 8 pages de rédactionnel.
C'est pas mal, hein. Là, il y en a plus là.
Et là, visiblement, oui, ils ont mis le paquet, quoi.
Non, c'est vraiment très très bien avec la double, la double truc, tu vois.
C'est pas mal, hein.
Ça c'est la première, je crois, hein. Le premier numéro, il me semble, tu vois. Alors donc c'est pas mal, mais ce qu'il y a aussi d'intéressant et de vachement bien, surtout pour les gens qui démarrent un petit peu, qui se disent oh putain, qui commencent à prendre un bouquin de n'importe qui et puis commencent à lire une histoire, ils disent putain mais je comprends rien, mais pourquoi celui-là il fait ça et tout quoi. Eh bien voilà, vous l'avez, il est là, c'est le synoptique. Bon, pas de l'ensemble des super-héros. Mais quand même, les familles principales, ça fait plaisir. Comme ça,
qui est associé avec qui, voilà. Qui est l'ennemi de machin,
qui a bastonné la gueule à machin et tout, tout ça avec des petites flèches et tout, et les différentes, les quatre fantastiques, les Vengeurs, les Marvel Knights et tout ça, enfin bon, ceux qui sont affiliés aux X-Men et tout, enfin, les grosses familles quand même, pour ça c'est assez intéressant. Et comme c'est dans le numéro 1 que ça coûte pas trop cher, bah ça vaut le coup parce qu'après ça commence à grimper.
Ouais.
C'est moins intéressant quoi.
Oui.
Ok. Non, c'était juste pour ça que je voulais en parler, le synoptique qui est pas mal, qui est assez intéressant.
Ah bah là tu m'as donné envie.
Ouais.
S'il vous plaît.
De toute façon, c'est pas pour les gosses, hein, il faut préciser quoi, c'est pour les adultes ça.
C'est peut-être pour ça effectivement qu'on l'a pas vu en publicité pendant les heures gamins quoi. Mais bon. Il est 13h.
C'est précisé sur la pub à la télé, tu le vois, hein, c'est marqué. Hein.
Oui, mais bon, faut avoir le temps de lire, hein, des fois. C'est les petites références en police Helvetica en gris sur fond blanc.
Ouais, mais tu sais, les mentions, des fois, toi, ça défile vite.
Non, mais toi, t'es pourri par la pub. Tu regardes les gros titres. Faut regarder les petits trucs.
Je suis pourri par la pub, l'autre. Attends, je te jure, quoi. Enfin, bon. C'était Supplément Week-end du 7 janvier 2006, la première de l'année. Donc, du sport va nous rejoindre tout de suite de l'autre côté. Thomas. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que tu vas faire, mais en tout cas, je suppose que tu as le procès-verbal de l'émission.
Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le fainéant, j'ai rien noté du tout. Ce qui fait d'accord. qu'on va noter le débordement. Aujourd'hui, on a fait quoi, 10 minutes ?
Non, c'était 8. 8.
Ah, bah c'est bon, je t'avais dit qu'on avait fait soft. Ouais, à partir du moment où on fait soft, tu sais, il n'y a pas grand-chose. On vous rappelle, on a parlé d'un énorme choc qu'on a eu, c'était Lord of War qu'il faut absolument aller voir, et puis quelques petites bandes dessinées sympas. On a cassé quand même Astérix, et puis voilà.
Et puis juste une chose, allez sur le site eucd.info pour signer la pétition, c'est quand même assez important si vous voulez continuer à... je vais dire pas à pirater la culture, mais tout simplement à ce qu'il y ait encore la culture qui se diffuse, point barre. Donc c'est peut-être l'occasion, la semaine prochaine dans Supplément Week-end. Rendez-vous donc samedi à midi. Et ben de mon côté il y aura Icar, Agrippine et je pense qu'il y aura d'autres choses. Ça on verra. T'es là?
Je pense que il est possible que je sois là.
D'accord.
Parce que alors si je suis là peut-être que je parlerai des films les plus attendus de l'année 2006.
Ça va faire un joli top 5 ça.
Bah ça c'est bien parce que j'ai déjà acheté le magazine et puis ils en parlent déjà donc bon ben, voilà.
Pas voyant. La suite des programmes, tout de suite, ça c'est du sport. 15h, Zarma Farai, c'est du reggae. 17h, Vie d'ordure, c'est du punk. 18h, on est chez nous. 19h, Dada. 20h, la CTRU Experience. Ma foi, ça va de plus en plus débile, là. À 21h30, Liquid Sky. Et à 23h, Breakbeat Experience. Voilà, vous écoutez Radio FMR en direct avec vous jusqu'à 5h du matin. Et n'oubliez pas le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Et en plus, vous pouvez réécouter les anciens suppléments week-end. Alors moi je tiens à signaler que jusqu'à début février on va être un petit peu gêné pour la mise en ligne pour les raisons qui sont je vais dire un petit peu bordéliques. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, je vous laisse tout de suite avec du ça.